La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre frère, notre sauveur. Bienvenue à vous tous dans ce lieu de culte ce matin. Bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour la première fois, ceux qui accompagnent ce matin Jérémy qui va recevoir le baptême ici même. Vous êtes les bienvenus dans ce lieu, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre confession. Vous êtes ici, chez vous, avec nous, dans la même communion. C'est ce que nous souhaitons de tout cœur. Bienvenue aux enfants de l'école biblique, de l'éducation biblique, que ce soit au catéchisme ou à l'école biblique ou à l'éveil biblique. Vous êtes les bienvenus, les enfants, dans ce lieu qui est votre maison, où vous allez apprendre petit à petit à lire des textes qui sont très anciens et en même temps, qui vont vous apprendre plein de choses sur la vie d'aujourd'hui et sur votre vie à vous. Donc je vous souhaite une très belle journée d'éducation biblique avec nous et je souhaite la bienvenue à tous les parents qui les accompagnent, qui sont là aujourd'hui avec nous particulièrement ce dimanche. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux, d'Internet. Vous êtes vous aussi en communion avec nous, même si vous n'êtes pas présent ici dans ce lieu de culte. C'est l'Esprit-Saint qui nous réunit. Je vous invite à la prière pour commencer ce temps de culte. Éternel, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église. Nous sommes rassemblés pour te rendre un culte. Soyons une communauté de prière et de joie autour de celui qui va recevoir le signe de ta grâce. Ouvre-nous à ton souffle de liberté et permets que nous soyons une communauté accueillante, formée par la foi en toi et en l'homme. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le premier répondu livré. C'est Alexandre Korovitch ce matin qui est avec nous et qui accompagne ce culte. Et nous allons chanter donc la liturgie que vous trouvez au début des psautiers français. Je vous invite à vous lever. Voilà, alors Alexandre, en fait ce matin c'est le dimanche d'éducation biblique et du coup la liturgie que tu as sous les yeux est celle du temps de l'église et nous allons prendre les réponses du temps de l'éducation biblique. Donc tu dois avoir normalement tout ce qu'il faut. Et donc le premier répond est le psaume 8, ton nom Seigneur est un nom magnifique. On va laisser à Alexandre le temps de s'adapter à ce petit changement. Je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 139 que nous allons lire pour les premiers versets et puis ensuite nous chanterons le 297 dans vos louanges et prières. Nous chanterons le 297. du chef de cœur de David, psaume du Seigneur. Tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. De toutes parts, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière alors autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Chantons notre louange à ce Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours auprès de nous. Alors nous chantons le 297 dans les louanges et prières. Les enfants dans le petit livre bleu, voilà. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Sa volonté est simple, simple par les mots, mais si difficile à vivre. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Voilà, toute la loi du Seigneur est contenue dans ces quelques mots. Et pourtant, elle est bien difficile à vivre pour nous chaque jour. C'est pourtant à quoi nous sommes invités et encouragés par la grâce de Dieu. Chantons notre volonté de faire la volonté de Dieu. Nous nous présentons devant Dieu avec ce qui pourrait nous séparer de lui. Et maintenant, Éternel, protège-nous du mépris de nous-mêmes. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec nos défauts, nos qualités, nos possibilités et nos impossibilités, nos a priori, nos faiblesses, notre indifférence, et nous t'aimons sans faire assez ta volonté. Alors nous avons besoin de toi pour nous relever, pour guérir notre manque de foi. Fais grandir, Seigneur, en nous la foi. Amen. Levons-nous pour recevoir la grâce du Seigneur, renouvelée sans cesse sur nous. Écoutez, amis, écoutez, vous tous qui êtes ici, écoutez résonner en vous la parole du Christ. Il vous dit, va en paix, ma grâce te suffit. Que cette parole vous libère. Et nous allons maintenant chanter le répond. Et avant, je vais inviter les monitrices à rassembler tous les enfants pour pouvoir aller ensemble à la maison presbytérale où vous allez pouvoir vivre votre culte avec ma consœur Agnès, Adeline Schaeffer, qui est ici avec nous et qui va conduire le culte pour les tout-petits et les grands aussi. Vous pouvez tous aller avec Agnès ce matin, d'autant plus qu'il y a un petit exercice commun ce matin à la maison presbytérale. Voilà, donc tous les enfants de l'éducation biblique et du catéchisme, si jamais vous êtes dans l'assemblée de ce côté-là, rejoignez-les maintenant et vous pouvez voilà, sortir avec Agnès. Je vous invite à chanter ensemble, frappez dans vos mains. Voilà, je vais vous inviter à vous asseoir et je vais maintenant accueillir Jérémy. Jérémy, si tu veux me rejoindre. Jérémy, tu as demandé à recevoir le baptême ici dans cette église et aujourd'hui cette église t'accueille et accueille ton souhait avec joie. Jérémy, veux-tu confesser ta foi devant cette assemblée ?
Avant de confesser ma foi, permettez-moi de me présenter succinctement à vous. Issu d'une famille protestante, j'ai été élevé dans la foi de mes parents, qui sont ici aujourd'hui, c'est-à-dire selon les principes de l'Église protestante de la science chrétienne. Il s'agit d'une Église fondée au XIXe siècle, aux États-Unis, et dont la vocation altruiste est de combattre toute forme de mal qui puisse atteindre l'humanité grâce à la connaissance de la bonté absolue de Dieu. Si je demande aujourd'hui le baptême à l'oratoire, c'est afin de réaffirmer, en tant qu'adulte, ma foi en Jésus-Christ, au sein d'une communauté que je côtoie depuis un peu plus d'un an maintenant et qui m'aide à poursuivre mon chemin de foi. Je vais maintenant vous confesser ma foi. Je crois en Jésus-Christ, notre frère, qui par sa vie nous a montré le chemin de l'amour et continue de nous guider à travers celui-ci. Ce chemin d'amour est celui qu'a tracé pour nous notre Père, qui est au milieu de nous et qui agit en nous à chaque instant, que nous en ayons conscience ou non. Malgré les difficultés que je ne manque pas de rencontrer sur ce chemin, j'ai confiance en lui, car je sais qu'il nous a donné le monde pour que nous y fassions fructifier les talents qu'il nous a donnés et que nous croissions en grâce, selon l'exemple de notre frère Jésus-Christ. Je crois que ce chemin d'amour nous appelle à nous rassembler, avec humilité, par-delà nos différences en termes d'origine, de confession ou d'idéaux, pour servir et pour aimer le monde. Car ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à rejeter le mal pour choisir le bien. Amen.
Je vous invite à chanter ensemble le répond de la confession de foi. Je vous invite à rester debout pour entendre et être témoin de ce baptême. Jésus vint de Nazareth et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé ». En toi, je trouve toute ma joie. C'est au nom de ce geste inaugural que nous baptisons aujourd'hui. Jérémie, tu vas être baptisé au nom du Père qui te donne le souffle de vie. Tu vas être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi. Il t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit qui a fait naître en toi cette foi que tu as confessé devant cette assemblée, et nous l'espérons aussi toute ta vie, l'espérance et l'amour. L'eau qui est ici est de l'eau tout à fait ordinaire dans ce baptistère, mais avec la parole de Dieu, elle devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu, eau d'un accueil inconditionnel dans la famille des enfants de Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et que, avec lui, ensemble, nous vivons de son amour. Jérémie, veux-tu recevoir le baptême ?
Oui.
Aussi cette parole est vraie. vous invite à chanter « Seigneur, dirige et sanctifie ». Comment ? 204 dans le recueil « Louanges et prières », 204. Voilà, chers frères et sœurs, voici Jérémie qui est avec nous dans cette communauté maintenant comme un frère ici même dans cette église. Il est votre frère dans la famille de Jésus-Christ. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille votre prière, votre souci pour lui et chaque fois qu'il aura besoin, il pourra trouver des frères et des sœurs et des soutiens ici dans cette communauté. Si jamais il venait à se séparer de cette église, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place et vous serez ainsi les témoins de l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Voilà, bienvenue Jérémie. Alors je vais maintenant prononcer cette prière pour ce baptême que nous venons de vivre. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Jérémie qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour ses proches et nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, nous lirons dans l'évangile de Jean le texte que nous avons discuté, médité ensemble avec Jérémie et que nous avons choisi de vous faire partager ce matin. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 24-34. Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens demandèrent à Jean « Pourquoi donc baptises-tu, si toi tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est à son sujet que moi j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui, le Fils de Dieu. » Je vous invite à prendre le cantique que vous avez reçu sur des petites feuilles à part et qui a été choisi avec Jérémie ce matin, comme un souffle fragile. Peut-être on va écouter la mélodie, puisqu'on ne le chante pas habituellement, avec Alexandre qui va nous la jouer déjà une première fois. Merci Alexandre. Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis nos mots, bénis notre lecture. Permets que nous soyons toujours dans l'attention à ce que tu permets de traverser les âges, toujours en actualisant tous les témoignages qui te rendent gloire. Permets, Seigneur, que ces témoignages deviennent vivants pour nous et que nous puissions nous aussi leur donner consistance dans nos vies. Amen. En intitulant la prédication « Suivre une parole qui nous précède », j'aurais dû écrire « Suivre une parole qui nous double ». Car l'évangile de Jean nous montre l'exemple d'un témoin du Christ qui attendait l'accomplissement des temps prophétiques et qui se retrouve à suivre celui qui arrive pourtant derrière lui. Étrange compréhension du temps où l'avenir de Jean, au lieu d'être devant lui, en fait, le suit. Jésus est celui qui vient derrière lui et pourtant Jean se déclare son prophète autant que son disciple. Dans l'évangile de Jean, le témoignage à propos du baptême de Jésus n'est pas raconté au lecteur par l'évangéliste lui-même, mais comme une autobiographie du baptiste. Ainsi, le témoignage est-il en quelque sorte redoublé ? Jean le Baptiste est témoin du baptême qu'il pratique sur Jésus, comme si ce baptême lui était donné à lui-même. Ce baptême va lui révéler le sens de ce qu'il cherchait jusqu'alors, en baptisant lui-même les autres dans les eaux du Jourdain. Acteur de la scène, il en est aussi le témoin et le bénéficiaire. Moi, je baptise dans l'eau au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas qui vient derrière moi. Par son témoignage, Jean pointe celui qui vient derrière lui et qui est pourtant son avenir. Il avoue même qu'il ne le connaissait pas et que, pourtant, il s'aperçoit que sa vie était tendue tout entière vers cette venue, comme si sa vocation était de baptiser Jésus de Nazareth, afin que le Christ, cette figure du Sauveur, se manifeste enfin à Israël. Cette situation du Jésus historique construit un personnage christique qui existe avant Jean le Baptiste, bien avant, dans un temps très ancien. Le prologue de Jean, introduction mais aussi clé de l'Évangile, commence par ces mots grecs. En arché, en o logos, ce qui est souvent traduit par au commencement était le Verbe. Pour faire un rappel, sans doute, de ce qu'on trouve dans le Premier Testament, au premier mot de la Genèse, Bereshit, c'est-à-dire dans un commencement. Mais ce en arché est un temps archaïque. C'est plus qu'un commencement, c'est avant tout commencement, un temps qui ne relève pas du temps des horloges, du temps historique et linéaire. Le logos dont parle l'évangile de Jean, ce verbe qu'il distingue de la chair, est une parole au sens très large d'une culture, un bain langagier dans lequel l'humanité tout entière baigne depuis avant le temps. Car pour instituer la convention du temps qui régit nos vies, il fallait un langage capable de créer le symbole entre ce qui est la chair, l'homme de chair et de sang, l'homme entre naissance et mort, l'homme pris dans l'histoire, et ce temps infini, éternel, qui préexistait à toute condition humaine. Ce temps vertigineux de l'éternité précède tout discours sur lui-même. C'est un temps avant le temps, en arché. Jésus est assimilé par l'évangile de Jean à ce logos, à ce bain langagier qui préexiste à l'homme. Cet homme Jésus de Nazareth, ce Jésus historique, qui est pourtant appelé par Jean le Verbe, il est celui qui met en acte ce langage qui préexistait. Quand Jean le Baptiste parle de Jésus, il est déjà baigné dans le logos qu'il annonce. Il est déjà imprégné de cette attente du Messie pour Israël. Pétri des prophéties d'Ésaïe, Jean le Baptiste redit sans cesse le besoin de son peuple de changer radicalement pour qu'enfin s'accomplisse l'amour de Dieu et sa justice dans ce monde par la conversion intime de chacun. Dans son esprit et dans sa vie, cette attente est structurante, à tel point qu'il baptise dans le Jourdain pour préparer ce temps qui vient. Ce en arché qui existe depuis la nuit des temps et qui prendra corps en un humain parmi les humains, un être singulier parmi tous les humains. Il prépare les cœurs, Jean-Baptiste, à recevoir cet être qui sera capable de mettre en acte la foi au Dieu d'Israël. Dans son essai sur la théologie du process, André Gounel pose cette question dans sa partie sur la christologie. En quoi consiste la structure d'existence qui caractérise et distingue Jésus? Car en fait, c'est un homme parmi tous les hommes, et il arrive au milieu de cet héritage qui le précède lui aussi. Selon les théologies du process, Jésus de Nazareth serait une entité actuelle à son époque, une combinaison d'une multitude de relations, de caractères, qui ferait de lui ce qu'il est, et qui est unique parmi les autres hommes, notamment le fait qu'il ne soit pas, comme tous les hommes, soumis au même péché qui sépare les hommes de Dieu. Cette entité actuelle, comme il l'appelle, surgit en Palestine à une époque donnée. Elle est ce qu'on pourrait appeler le Jésus historique. Mais comme résultat de relations combinées entre elles, il est aussi le résultat d'une culture héritée par ses pères et assimilée par lui dans son discours, dans sa vie, dans sa culture, et qui continue au-delà de lui par la trace qu'il aura laissée après la résurrection. Cette pensée du process nous aide à penser que Jésus est plus que le Jésus historique, dont d'ailleurs nous ne savons pas grand-chose si l'on s'en tient au témoignage des évangiles. Il est celui qui vient, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, et encore beaucoup d'autres appellations qui relèvent d'une compréhension particulière de l'attente messianique, en même temps qu'il est imaginé comme venu d'un temps archaïque avant le temps, du temps de Dieu. Il est donc marqué de la temporalité particulière de Dieu. Celui qui était et celui qui sera, comme Dieu lui-même est décrit dans la révélation faite à Moïse dans Exode 3, « Je suis celui qui suis », au sens de ce présent éternel de celui qui était, qui est et qui sera. Jean le Baptiste voit arriver celui qui accomplit tout ce que la loi de Dieu lui a dicté. Jésus est l'accomplissement de l'amour de Dieu, il est l'incarnation de ce qui est attendu depuis les débuts du monde. Il est à lui seul l'histoire du salut. Pensons maintenant à cet évangile de Jean, écrit après la mort de Jésus. Comment Jésus continue-t-il à être celui qui vient au-delà même de sa venue et de sa mort? C'est que les promesses de Dieu accomplies en Jésus dans cette combinaison singulière de relations n'en finissent pas de s'accomplir dans ceux qui marchent à sa suite. Jésus est donc plus que lui-même. Il est tous ceux qui le suivent aussi. La mise en acte de cette parole, de ce logos, continue avec les femmes et les hommes de chaque époque. et le Christ comme entité actuelle n'en finit pas de se réactualiser dans chaque personne qui reçoit le témoignage de sa foi et le met en action. Alors, comme le faisait dans le Jourdain Jean-Baptiste, nous baptisons, nous aussi. Nous baptisons non pas pour que le salut de Dieu se manifeste à nous, comme le dit Jean-Baptiste de lui-même, mais pour que ce salut devienne manifeste pour nous, car il est déjà venu, et pour tous ceux qui viennent après nous et qui sont déjà en germe dans le témoignage rendu au Christ. Si Jésus fut un être singulier, existant dans une époque particulière, le Christ, lui, est une véritable culture. La culture christique est composée de tout ce qui concerne celui qui a été identifié par ses contemporains comme le Messie tant attendu. Mais cette culture contient aussi la contestation du fait qu'il soit bien le Christ qu'on attendait. Et ce passage de l'Évangile de Jean nous montre combien les problèmes de légitimité qui se posent sans cesse à ceux qui annoncent le salut de Dieu par le baptême ou par tout autre acte qu'ils érigent en signe du salut de Dieu est un problème récurrent dans la Bible. « Toi, qui es-tu ? » Il le reconnut, il ne le nia pas, il le reconnut, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Cette précision montre que reconnaître le Christ pose le problème de la preuve. Qui pourra prouver que Jésus de Nazareth est bien le Christ attendu par tout un peuple et annoncé par les prophètes? Cette question de la véritable incarnation est posée par Jean le Baptiste, parce qu'autour de lui, il y avait une véritable culture christique qui aurait pu faire penser que c'était lui, qu'il était lui-même le Christ tant attendu. Aujourd'hui encore, Jésus n'est pas reconnu comme le Christ par tous ceux qui font partie de cette même culture. Et beaucoup de nos frères juifs entendent le Messie comme leur père l'attendait, comme ils attendent le retour d'Élie et le prophète enlevé au ciel. La culture christique contient aussi en elle sa propre contestation qui la structure et lui donne aussi sa valeur et son sens. C'est une affaire de reconnaissance. Là où il y a la certitude, le savoir absolu, il n'y a plus de culture, parce qu'il n'y a plus de création, de découverte et de recherche. C'est pourquoi nous enseignons à nos enfants cette culture christique de façon critique, pour qu'ils baignent eux aussi dans cette attente messianique pour eux-mêmes et puissent se demander eux aussi où est le Christ en eux et dans leur vie. Tout ce langage, ce logos, cette culture du récit et du témoignage structure notre temps, notre mémoire et notre existence présente en nous ouvrant sans cesse un avenir. Le Christ est à trouver encore dans nos vies. Il émerge de nos existences chaque fois que l'amour de Dieu s'accomplit et que nous sommes sauvés de ce manque de foi qui nous empêche d'espérer dans l'avenir. Le Christ est toujours devant nous à découvrir, même s'il était là avant nous dans notre culture chrétienne, même s'il est venu incarné en Jésus de Nazareth. Pour nous, pour chaque génération, il est à redécouvrir et à incarner de nouveau. Celui qui précède Jean de toute éternité est venu à lui pour accomplir cet acte fondateur qu'est devenu avec lui le baptême chrétien. Dans ce récit, c'est toute la culture christique qui réinterprète la culture du baptiste. Là où le baptême était une ablution rituelle qui lavait l'homme de son péché, il devient signe visible de la grâce invisible de Dieu incarnée en Jésus. Avec ce récit, le baptême devient non pas outil du salut, mais signe du salut, théophanie, manifestation de Dieu dans ce monde des humains. Il ne sert plus à laver l'homme de ce qui le sépare de Dieu. Il est signe qui affirme que Dieu nous a déjà sauvés de ce qui pourrait nous séparer de lui. Il est un signe à reconnaître. Jésus de Nazareth devient donc le Christ, en devenant parole de Dieu. Une parole qui structure toute la vie humaine, une culture langagière qui invite à une certaine sorte de relation avec son prochain, à une certaine sorte de relation avec Dieu aussi. Le Christ est la forme de la vie du croyant. Avec le baptême, nous vivons en Christ. Il donne un avenir sans cesse ouvert devant nous, en faisant mémoire des promesses du passé et en nous donnant l'audace de réaliser notre futur. Jérémie, en recevant le baptême, tu manifestes à ce monde l'actualité du Christ. Comme tous ceux qui vivent dans cette culture christique, tu participeras à sa résurrection effective dans tous les actes que l'esprit de cette culture t'inspirera. Avec ton action, tu seras signe de résurrection. La part du Christ qui est la nôtre est la part éthique. Nous avons à vivre en suivant Jésus, mais en le réinventant comme forme actuelle du salut pour notre monde, comme manifestation contemporaine de l'amour de Dieu pour aujourd'hui. Il nous faut donc écouter le monde, l'écouter et l'aimer, sans le refuser, sans le trahir, sans le juger, l'écouter et l'aimer. Avec Jean le Baptiste, avec Jean l'Évangéliste, avec tous les prophètes qui les ont précédés et avec tous les témoins qui leur ont succédé, nous sommes dans ce temps d'avant le temps avec le Christ, dans ce énarché, ce temps divin qui nous enveloppe de l'amour infini de Dieu. À nous d'évangéliser notre temps des horloges en lui insufflant un peu de cette éternité de l'amour de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 308 et nous nous levons, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir et nous allons partager des annonces avec notre présidente du conseil, Aurore, qui va partager les annonces avec nous.
Merci Béatrice. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux malgré le marathon de Paris qui bloque tout le quartier. Alors, si on va tous sortir tout à l'heure, on va faire bravo, bravo. Quelques annonces. Je vais commencer par dimanche prochain, parce que vous savez que vendredi, ça commence à être les vacances scolaires. Beaucoup de parents sont là. Si vous arrivez à ne pas partir samedi, mais que dimanche soir, vous aurez la joie d'accueillir en chair Frédéric Chavel, que nous avons invité, qui vient prêcher dimanche prochain. Également, Agnès restera déjeuner avec ceux qui le souhaitent pour goûter les mets que vous apporterez, parce que c'est ce qu'on appelle un déjeuner partagé, c'est-à-dire que vous venez vous-même avec vos meilleures recettes ou celles dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir encore faire un dîner ou un déjeuner, vous venez vous partager votre repas avec Agnès qui sera là. Béatrice sera partie quelques jours en vacances. Et juste après, Agnès va partager avec vous des paroles d'amour. Et le sujet, c'est les désirs amoureux dimanche prochain. Donc, pensez aussi à des recettes, aux épices de la passion. Hein, et vraiment, dimanche prochain, venez avec vos enfants aussi. Vous pouvez venir vos enfants. Venez, partez pas tout de suite en vacances. Dimanche matin, accueillez Frédéric Chavel. Juste après, déjeuner avec Agnès, épices de la passion et désirs amoureux. Voilà, ça c'est dimanche prochain. Mercredi également avec Agnès. Du coup, tu pars plus en vacances. Mercredi à Saint-Eustache avec le prêtre Monsieur Trochéry, c'est vrai, il s'appelle vraiment Monsieur Trochéry. Agnès est à Saint-Eustache sur le groupe œcuménique sur le thème de la réconciliation. Donc, c'est un sujet en ce moment qui importe. Donc sujet œcuménique sur la réconciliation mercredi soir. Vous vous inscrivez tous, s'il vous plaît, à la newsletter qui arrive par email tous les vendredis matin. Ça nous évitera de répéter à chaque fois les annonces. le dimanche. Vraiment, inscrivez-vous à cette newsletter, nous donnons énormément d'informations. Également, parce que quelques conseillers m'ont parlé récemment et également paroissiens, nous ne parlons plus d'argent en ce moment. Alors, on n'a pas parlé d'argent jusqu'ici, parce que jusqu'ici, tout s'est très très bien passé. Et vraiment, un grand grand merci à vous tous, puisque nous avons réussi, je parle sous le contrôle de notre trésorière, à ne pas taper dans les réserves pour faire vivre notre église. Alors, la difficulté, c'est que en fin d'année, dans notre système d'église, faut comprendre qu'on a entre, allez, les deux tiers de nos dons arrivent en octobre, novembre, décembre. Oui, mais octobre, novembre, décembre, c'est deux tiers. Alors, si on fait l'analogie avec le marathon, nous, c'est un marathon, mais avec un énorme sprint à la fin, parce que deux tiers des dons doivent arriver entre octobre, novembre et décembre. Donc, deux tiers, alors vous savez, le chiffre 3 est un chiffre important, donc deux tiers, voilà, pour le moment, nous n'avons donné qu'un tiers, donc pensez à donner encore deux tiers, s'il vous plaît. Alors, la grâce, c'est gratuite. Donc, vous ne donnez pas pour avoir la grâce du conseil presbytéral ou le salut, même des pasteurs, ça, on ne peut pas faire. Ça, c'est pas possible. La grâce, c'est gratuite. Alors, en lisant beaucoup de papiers des églises, on dit, je crois que c'est acte 20, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, c'est vrai, nous aussi, on a un bouton qui s'appelle le ton joyeux, vous appuyez dessus, il est tout rose, et tout d'un coup, vous avez une énorme joie. Mais je peux vous dire aussi qu'en tant que conseil presbytéral, et je regarde ma trésorière sourire, l'entraide aussi, en tant que conseil presbytéral, alors, on a un plaisir fou à recevoir. Donc, on a un plaisir à donner, mais alors, quand on reçoit, c'est un grand, grand bonheur, parce que ça veut dire que vous nous soutenez.
Surtout, vous vous soutenez vous-même, parce que quand nous, on reçoit, ça veut dire que notre Église reçoit, et ça veut dire que tout le monde reçoit, parce que c'est toujours redonné à tous dans tout ce que nous faisons ici. Donc, c'est un bonheur pour tout le monde. Donc, c'est une solidarité entre nous. Alors, voilà.
Merci. Et donc, l'année dernière, nous avions atteint un total de dons de 260 000 euros, ce qui n'avait jamais été atteint à l'Oratoire du Louvre, ce qui veut dire que vous appréciez ce que toute l'équipe fait. Je vous en prie. N'hésitez pas à vous faire très très plaisir et à tous se faire très plaisir et vraiment bon dimanche à tous. Merci beaucoup.
Merci Aurore. C'est maintenant le moment de l'offrande justement et c'est le moment où vous pouvez donc être très très joyeux. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour Jérémie, pour tout cet avenir ouvert devant lui. Permets qu'il soit accueillant à ta parole chaque jour de sa vie. Nous te prions, Seigneur, pour tous les étudiants de notre société, tous ceux qui construisent leur avenir avec leur intelligence, avec tout ce qu'ils apprennent auprès de leurs aînés. Permets, Seigneur, qu'ils soient soutenus par la génération qui les précède, qu'ils soient accueillis par la génération qui les précède, qu'ils soient encouragés et qu'ils puissent trouver leur voie dans notre société avec le sentiment qu'ils sont complètement accueillis et ne sont jamais de trop. Aide-nous, Seigneur, à voir chez les plus jeunes la fragilité et parfois la précarité qui est si souvent cachée par peur de déranger et puis parce que on croit toujours que quand on est jeune, tout est facile. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à cette génération qui a besoin de nous tous. Nous te remettons tous ces jeunes qui font des queues interminables pour arriver à manger dans notre société alors qu'ils sont inscrits à l'université. Permets, Seigneur, que nous ne laissions pas cet avenir de notre société dans cette situation. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui cherchent une voie dans leur vie et qui voudraient entendre parler du Christ sans ces fermetures constantes qu'ils entendent un peu partout. Permets, Seigneur, que nous ayons une pensée sur toi ouverte, toujours en découverte, capable de se remettre en question, capable de chercher de nouvelles voies pour parler de toi, l'ineffable. Ouvre nos esprits et nos cœurs, Seigneur. Nous te prions pour nous tout petits, nos enfants. Permets que nous soyons des églises responsables qui protègent les plus jeunes, qui fassent toujours attention à eux et qui soient dans l'exigence d'un encadrement pensé, attentif aux enfants et aux droits. Nous te demandons, Seigneur, cette vigilance constante dans nos églises. Seigneur, ouvre-nous à ta parole et permets que nous soyons des témoins fidèles de ta parole. Amen. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes ici dans cette maison, vous tous qui êtes un peu plus loin, qui nous regardez ce matin et qui êtes avec nous, allez avec cette parole qui vous précède toujours, allez avec cet horizon qui sans cesse se déplace avec vous, allez là où le Seigneur vous conduit, il est sans cesse devant vous et vous attend. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Amen.